6h30, 9h, les matins de France Culture. Quentin l'a fait.
Les grands reporters Georges Malbruno et Christian Chesneau signent une enquête passionnante au cœur de l'Arabie Saoudite, MBS confidentielle, pour Mohamed Ben Salman, un prince héritier tout aussi fascinant qu'insaisissable. On y apprend notamment que ce sont des histoires de prisons dorées, de guet-apens, de revolvers sur la tempe qui ont mené MBS au pouvoir. En quelques années, le prince héritier a réformé profondément le pays, il a renversé la noblesse traditionnelle, il a amoindri l'influence du wahhabisme, il a redoré l'image du pays aux yeux du monde et il a bâti une grande puissance militaire, économique et culturelle. Alors comment comprendre ce phénomène? Avec moi ce matin en studio, Christian Chesneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous êtes le co-auteur donc de MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Ça vient de paraître aux éditions Michel Lafon. Et peut-être pour commencer, comment est-ce qu'on enquête en Arabie Saoudite? Comment matériellement, concrètement même, ça s'est passé?
C'est pas évident parce qu'évidemment là là-bas, les gens ne parlent pas. C'est quand même un régime autocratique, un régime policier. Et donc, il faut avoir des sources, avoir confiance dans les sources et que les sources aient confiance en nous. Donc, on a fait beaucoup d'interviews à l'extérieur de l'Arabie Saoudite. On a été plusieurs fois en Arabie Saoudite où on a rencontré des gens, notamment des expatriés, des hommes d'affaires, des diplomates. Mais beaucoup de sources, notamment saoudiennes, se voient à l'extérieur du royaume.
Revenons peut-être alors au début de l'histoire. On est en janvier 2015. Le roi Abdallah décède à l'âge de 90 ans. Comment est-ce que MBS parvient à monter sur le trône alors qu'il n'est pas, au fond, le dauphin direct?
Oui, il est le numéro 3. Mais sa grande qualité, c'est qu'il est le fils de son père, le fils préféré. Et finalement, dans l'ombre, il va éliminer le numéro 2, qui s'appelle à l'époque Mohamed Ben Nayef, qui est aujourd'hui d'ailleurs en résidence surveillée, qui a un bracelet électronique, qui a été cassé, finalement brisé par MBS. Et à force de manigance, il va réussir deux ans plus tard à l'éliminer et à finalement s'ouvrir les portes du pouvoir, mais évidemment avec une brutalité.
Qu'est-ce que son père lui trouve? C'est purement affectif. On sait que MBS n'est pas un intellectuel. Qu'est-ce qu'il a comme qualité exactement?
C'est un pur saoudien. Et c'est quelqu'un qui est du terroir. Et surtout, c'est quelqu'un, évidemment, qui n'a pas beaucoup été à l'étranger, qui ne parlait pas l'anglais à l'époque. Et son père, finalement, il a beaucoup travaillé avec son père, qui était le gouverneur d'Riyad. Et donc, il était vraiment la canne de son père, on explique dans le livre. Mm-hmm. Vraiment, c'est son ombre. Et donc, son père lui fait confiance aussi parce que c'est un bédouin. Et selon le précepte d'Ibn Saoud, le grand roi d'Arabie Saoudite, en fait, les bédouins ne peuvent être gouvernés que par des bédouins, quoi.
Lorsque Mohamed Ben Salman arrive au pouvoir, quel sort réserve-t-il pour commencer peut-être à la noblesse saoudienne?
Ah bah il les rafle, tout simplement. C'est-à-dire que vous vous souvenez de la fameuse rafle du Ritz-Carlton en 2017. Là, à peu près 400 princes, 400 VIP, des ministres, des hommes d'affaires vont être, séquestrés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, dont le fameux prince Ben Walid, par exemple. Et là, au nom de la lutte anticorruption, il va tous leur mettre un revolver sur la tempe. Il va récupérer 100 milliards de dollars parce que tous ces princes finalement avaient pillé dans la caisse. C'était un peu Alibaba et les 40 voleurs. Mmh. Et donc pendant des décennies, ces princes étaient enrichis sur le dos de l'Arabie Saoudite. Et il veut récupérer cet argent pour servir ses grands projets.
La noblesse raflée, Christian Chesneau, vous venez de l'expliquer. Quid cette fois-ci des religieux et notamment des wahhabistes?
Alors pareil, en fait, ce qui est intéressant avec MBS, c'est que il veut dépasser justement l'état religieux et plutôt recréer un état-nation. Et donc, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à la religion et notamment tous les côtés extrémistes, radicaux. Vous vous souvenez, il y avait quand même une police religieuse, les Moutawas, dans Riyad, avec armée de bâtons et de fouets, qui faisait respecter les appels à la prière, qui harcelait les femmes. Et ben ça, il les met directement, à la retraite, et il va les éviscérer d'une certaine manière, parce que la religion ne doit plus être finalement le mantra de la nouvelle Arabie Saoudite.
Qu'est-ce qui fonde idéologiquement son action? Au fond, qu'est-ce qui l'inspire? Est-ce que c'est la prise, le maintien au pouvoir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond chez lui?
Alors, il y a évidemment le maintien au pouvoir, c'est-à-dire qu'il a fait place nette, il a coupé toutes les branches rivales, il a éliminé tous les rivaux potentiels. Chez MBS, on l'explique dans le livre, il n'y a pas beaucoup d'idéologie. C'est pas le grand Nasser, c'est pas les grandes figures du monde arabe. C'est plutôt quelqu'un qui est pragmatique, opportuniste, qui comprend que son pays allait dans le mur et que pour le réformer, pour le faire grandir, eh bien, il faut qu'il s'affirme. Et il va revoir, par exemple, tous ses partenariats géopolitiques. Et donc, on a un chapitre consacré, c'est l'Arabie d'abord. C'est-à-dire, c'est les intérêts de l'Arabie et évidemment les intérêts de MBS d'abord.
Il faut revenir, Christian Chesneau, sur cette cette histoire fondatrice qui illustre à quel point les droits humains restent largement bafoués dans le pays. Je parle évidemment de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, chroniqueur du Washington Post. Racontez-nous encore cette histoire.
Oui, alors évidemment, comment dire, MBS est brutal et l'affaire Khashoggi arrive au moment où justement il commence à monter au pouvoir. Et donc, Jamal Khashoggi était un journaliste éminent, dissident, va être assassiné sauvagement au consulat d'Istanbul en 2018, sur ordre du palais, sur ordre de MBS. Lui, il va le nier, mais évidemment, la CIA, l'ONU, les services turcs affirment que finalement, l'ordre a été donné d'en haut, et ça, un diplomate nous l'a redit, c'est un peu le péché originel de MBS, une tache de sang. Et puis, en même temps, le temps passe, il a été ostratisé, ça a été le paria, selon Joe Biden, et aujourd'hui, il est courtisé par la planète entière.
Pour en revenir justement aux ambitions diplomatiques de MBS, est-ce qu'on peut considérer qu'il a substitué la diplomatie culturelle à la diplomatie religieuse aujourd'hui ?
Non, c'est une diplomatie 360, c'est-à-dire que le partenariat historique de l'Arabie, c'est évidemment les États-Unis, avec le fameux pacte de Quincy en 45 entre Ibn Saoud et le président Roosevelt. Aujourd'hui, les Américains sont toujours présents, partenariat fidèle, mais j'allais dire polygame. C'est-à-dire que l'Arabie a d'autres partenaires, les Russes, les Chinois, les Indiens, l'Afrique du Sud, le Brésil, les BRICS, pour faire court. Et donc, les Américains et les Européens sont parmi d'autres. Donc, MBS regarde un peu partout. Encore une fois, pour revenir au début, pour ses intérêts. C'est-à-dire que s'il a besoin de vendre son pétrole, il le vend aux Chinois. S'il a besoin d'armement, il peut aller voir les Russes. Voilà. Donc, il est dans une vision...
Un pur pragmatisme
pour servir les intérêts. Parce que, encore une fois, il faut qu'il donne du travail aux jeunes. Il veut sortir du tout pétrole. Donc, voilà, tout est bon pour son projet de modernisation intérieure.
Comment est-ce que vous décririez, Christian Chesneau, les ambitions de type militaire de MBS cette fois-ci?
Alors au début, il a cru qu'il était une grande puissance, mais l'Arabie, encore une fois, c'est évidemment c'est 35 millions, mais c'est une petite armée suréquipée, mais qui pèse peu par rapport à l'Iran. Et là, l'idée, c'est finalement de nouer des partenariats. Et d'accord, il a compris que son armée ne pouvait pas faire le poids face à l'Iran, donc il normalise avec l'Iran. Il sait aussi qu'il va devoir normaliser avec Israël. Donc l'idée de l'MBS, après un début fougueux, le Yémen, une guerre atroce au Yémen, il y a eu cet embargo contre le Qatar, il a compris que pour se développer, pour finalement assurer son pouvoir souverain, il a besoin de calme dans la région. Alors évidemment, en ce moment, avec Gaza, c'est pas vraiment le cas, il faut résoudre le Yémen, donc il a apaisé avec l'Iran, voilà. Donc ça, son projet, c'est finalement d'être un peu médiateur maintenant, dans une posture moins agressive qu'au début du règne.
MBS, Christian Chesneau, c'est aussi un rapport singulier à l'hypermodernité, des projets pharaoniques type The Line, c'est une façon de transformer l'économie saoudienne en l'inscrivant dans ce que lui-même appelle l'hypermodernité, c'est son terme ?
Oui, c'est-à-dire que ce qui est fascinant avec lui, on l'a dit au début, c'est un bédouin, encore une fois, qui n'a pas beaucoup voyagé, qui parle aujourd'hui l'anglais, mais il y a 4-5 ans, il ne parlait pas un mot, et qui en fait est fasciné par l'hypermodernité, le futur. C'est un adepte des jeux vidéo, mais par exemple, il adore l'art numérique, il a ce projet pharaonique de Line, qui est complètement de science-fiction, c'est-à-dire c'est 170 km de longueur sur 200 mètres de large, une ville qui va accueillir des millions de gens. Donc il y a un côté, oui, science-fiction. Il est passionné aussi de cryogénie. Il pense que sa génération vivra plus longtemps que les autres. Voilà, il est dans l'ultra-modernité, ce qui est un peu qui est fascinant, qui est paradoxal. Encore une fois, il vient vraiment de Riyad, de l'Arabie Saoudite profonde, et en même temps, il a une vision très futuriste.
Et justement, comment est-ce que dans le discours, il fait le pont, il dresse des ponts entre cette hyper-modernité qu'il a à cœur, qu'il décrit, et son histoire, sa propre histoire individuelle?
Alors lui, il joue notamment sur l'histoire et notamment sur le début de l'Arabie Saoudite, du premier royaume en 1727, avant le pacte entre les Wahhabites et les Saouds. Donc voilà, il veut refaire une sorte de nationalisme, de créer un nationalisme, notamment chez les jeunes. Faut pas oublier, l'Arabie Saoudite, 70% de la population a moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur les jeunes, sur les femmes, pour avoir un nouveau narratif, une nouvelle histoire d'Arabie, pour dire, on est un grand pays, on a une grande histoire. Ils ont un fameux site, Al Ula, un site nabatéen, donc pré-islamique. Et donc, il veut mettre en valeur toute cette Arabie, j'allais dire, profonde, historique, au détriment de l'Arabie religieuse wahhabite qui a finalement coûté très cher en termes d'image, hein, parce qu'il y a eu quand même des grandes zones d'ombre avec l'Arabie saoudite. Vous souvenez, le 11 septembre, 15 des pirates de l'air étaient sur 19 étaient des Saoudiens. Ben Laden, c'est un Saoudien. Donc il faut effacer tout ça, faut passer à autre chose. Et donc c'est vraiment l'objectif de MBS. D'ailleurs, d'où les investissements dans le sport, dans la musique, dans la culture. C'est ça la Nouvelle Arabie. Alors évidemment, derrière, il y a des taches d'ombre parce que c'est une modernisation autocratique. On n'est pas dans une libéralisation justement démocratique. On est sur quelqu'un qui a une poigne de fer, qui veut faire avancer son pays, c'est-à-dire au forceps. Et évidemment, ça fait parfois des dégâts.
Autocratique et violente. Je voudrais revenir un instant, Christian Génot, sur la diplomatie de MBS. L'Arabie Saoudite avait l'an dernier, on s'en souvient, engagé une normalisation de ses relations avec Israël. Quelles sont les conséquences de cette normalisation et surtout, quelles sont les conséquences de la guerre sur cette normalisation?
Là, la guerre à Gaza a clairement percuté ce début de normalisation. Effectivement, on était proche, sous l'égide des Américains d'ailleurs. Mais évidemment, le 7 octobre a arrêté net cette normalisation. Elle est en pause. Elle viendra un jour, peut-être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, parce que la logique de l'histoire veut que, évidemment, dans le projet de Mohamed Ben Salman, il y a cette riviera, cette mer rouge qui veut développer. En face, il y a Israël.
Elle est en pause, pardonnez-moi, mais non remise en cause.
Elle est non remise en cause. Alors, les gens en Arabie Saoudite sont vent debout contre Israël et effectivement la guerre en Israël et dans la population. En revanche, pour MBS, elle arrivera à un moment donné, mais elle sera plus chère. C'est-à-dire que par rapport au 7 octobre avant, on pouvait normaliser ce type Émirats Arabes Unis avec des accords économiques, des accords de défense. Là, pour maintenant les Saoudiens, pour MBS, il faudra quelque chose sur le dossier palestinien et pas simplement un arrêt de la colonisation. Il faut au moins, comme ils disent, un État palestinien, en tout cas plus qu'une promesse d'un État, c'est-à-dire clairement des jalons vers l'État palestinien.
Un dernier mot sur les relations, l'état des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et la France. De quelle nature sont-elles?
En ce moment, avec Emmanuel Macron, elles sont un peu aigre-douce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'alchimie entre MBS et Macron, et plutôt une froideur, des malentendus. La France, elle est impliquée sur la mise en valeur du patrimoine archéologique antique de El Oula, donc cette grande cité nabatéenne. Mais au-delà de ça, on est un peu hors des écrans radars. C'est-à-dire, encore une fois, on est un petit pays. L'Europe est aussi un petit peu absente. On est là, mais on n'est plus, j'allais dire, on n'a plus le vent en poupe. Encore une fois, ce qu'on vend en poupe, c'est les Indiens, les Russes, les Chinois, enfin tous les BRICS. Donc on est toujours là. MBS nous aime bien parce qu'il a ses palais en France, à Louvciennes. On est un peu un pays de villégiature, mais on est moins maintenant un pays économiquement puissant.
Merci beaucoup, Christian Chenot, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, co-auteur, je le rappelle, de cette enquête passionnante, MBS confidentielle, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Ça vient de paraître aux éditions Michel Lafon.